Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Pourquoi les chrétiens modernes n'observent-ils pas les fêtes instituées à perpétuité par l'Éternel Dieu? Des fêtes observées par les apôtres longtemps après la mort du Christ. Pourquoi ces fêtes furent-elles remplacées par d'autres émanant du paganisme après leur avoir opposé une étiquette chrétienne? Lisons ce que la Bible déclare au sujet du roi Nimrod, qui régna sur la ville de Babel. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le nom Nimrod signifie le rebelle ou celui qui pousse à la rébellion. Il fut le premier personnage politique sur terre. Il fut le premier tyran. Le livre de la Genèse raconte qu'il commença à être puissant, qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais ces mots ne traduisent pas le sens du texte original. En effet, les mots « vaillant » et « puissant » sont tous deux traduits de l'hébreu « gibor », signifiant aussi « guerrier » ou « tyran ». Nimrod était donc un tyran. Il imposait ses lois. Lorsque nous lisons qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, nous devons savoir que le mot « devant » est traduit de l'hébreu « panim », signifiant aussi « contre ». Nimrod s'opposa à Dieu. Sa rébellion contre Dieu était un choix personnel, mais nous pouvons être certains que Satan l'encourageait dans cette voie. Nimrod devint de plus en plus puissant. Sa puissance allait de pair avec le désir du peuple de mettre quelque chose ou quelqu'un sur un piédestal. Nimrod devint un autre dieu que le Dieu vivant aux yeux du peuple. En prenant en main le gouvernement civil de l'époque, Nimrod imposa également un gouvernement ecclésiastique dont il était le centre. Il devint l'objet de l'adoration de son peuple. Il est certain qu'après le déluge, les survivants avaient la connaissance de Dieu. Noé leur ayant enseigné la voie divine, mais ils préféraient la désobéissance. Ils rejetèrent Dieu. Vers quel Dieu se tournèrent-ils alors? Ils se tournèrent vers le serpent du jardin d'Éden, Satan. Après tout, n'était-ce pas grâce à lui qu'ils obtinrent la connaissance du bien et du mal? Le serpent, lui, ne leur avait donné aucun commandement, aucune instruction à suivre. Voilà pourquoi il devint celui qui les éclairait, celui qui devint leur lumière. Il était celui qui leur montrait, pensait-il, la bonne voie. La Bible révèle que le grand dragon, le serpent ancien, est Satan, le diable. Et puisqu'il éclaire les hommes spirituellement, puisqu'il est leur lumière, le soleil devint son symbole. L'humanité tomba sous la séduction de Satan, qui, sans qu'elle ne s'en rende compte, devint son Dieu. Le soleil aussi devint un objet d'adoration important, car il apporte la lumière et la chaleur. Voilà pourquoi on retrouve le nimbe ou disque solaire associé à la plupart des divinités. La simple auréole ou celle entourée de rayons, garnissant soit une croix ou encore située derrière la tête d'un personnage quelconque, perpétue l'adoration du serpent du jardin d'Éden. À la page 243 de son livre « Les deux Babylones », Alexandre Hislop voit dans l'ostensoir l'emblème solaire. La nouvelle encyclopédie catholique Théo donne la définition suivante de l'ostensoir. Je cite sans autre commentaire. Il est destiné à présenter à l'adoration des fidèles l'hostie consacrée. Il peut présenter plusieurs formes. La forme la plus répandue aujourd'hui est le soleil. C'est un disque plus ou moins ouvragé, généralement entouré de rayons, au centre duquel est placée la custode de verre contenant l'hostie. Fin de citation. Satan, qui continue à séduire toute la terre, poussait les gens à adorer la lumière. N'oublions pas que le nom Lucifer, en hébreu « Eilel », signifie « astre brillant », celui qui apporte la lumière. Le feu qui donne chaleur et lumière était associé au soleil. Dans son livre, Alexandre Hislop écrit « Comme le soleil dans les cieux était le grand objet du culte, Ainsi, le feu était adoré comme son représentant sur la terre. En même temps que le soleil, le grand dieu du feu, le serpent, eut aussi son culte et s'identifia avec lui. Nimrod était roi. La Bible déclare « Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Il devint prêtre du soleil ou Bolkan, prêtre de Baal. C'est ainsi qu'il devint le prêtre du feu dévorant, auquel on offrait des victimes humaines, plus particulièrement des enfants, comme le prouvent l'histoire, la Bible et les découvertes faites en de nombreux endroits, tels Carthage, comme le relate le livre « Greece and Rome » édité par le National Geographic Society. Alexandre Hislop écrit au sujet de Nimrod. Ce ne fut toutefois qu'après sa mort qu'il paraît avoir été déifié. Aussi fut-il adoré plus tard comme l'enfant du soleil ou comme le soleil incarné. Pendant sa vie, cependant, il n'eut d'autre prétention que celle d'être Bolkan ou prêtre de Baal. Après la mort violente de Nimrod, Sémiramis, son épouse, s'accrocha à la promesse d'un sauveur annoncé à Adam et Ève. Voici cette promesse. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, symbolisant ainsi l'abaissement, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » La femme symbolise l'Église de Dieu. Elle débuta par l'ancien Israël, qui était l'Église ou l'Assemblée au désert. Sa postérité est le Christ, la généalogie de Marie et de son père adoptif, passant par Abraham et David. Le Messie devait écraser la tête de Satan, ce qu'il fit lors de la tentation dans le désert, mais Satan devait lui briser le talon lors de la crucifixion. En se qualifiant pour sauver l'humanité, le Christ acquérait la possibilité de vaincre à jamais la puissance de Satan. Mais ceci exigeait la mort du vainqueur, car l'humanité ne pouvait être délivrée de sa malédiction que par la mort de son sauveur. Lorsqu'elle enfanta Caïn, Ève pensa avoir mis au monde cette postérité, le Messie attendu. Voilà pourquoi elle déclara « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Quant à Sémiramis, elle se servit de la promesse de la venue d'un sauveur pour faire croire que son époux allait renaître dans l'enfant qu'elle portait afin de devenir ce sauveur déjà attendu. Elle prétendit que cet enfant avait été conçu miraculeusement. Elle associa alors le dieu soleil au sauveur qu'elle allait mettre au monde. Ce sauveur, prétendait-elle, était semblable au soleil qui meurt le soir et renaît le matin. Dieu avait dispersé les hommes sur la face de la terre suite à la construction de la tour de Babel. Nimrod avait été leur héros, et lorsqu'ils apprirent sa mort, ils le pleurèrent. Avec le temps, ces gens poursuivirent leur migration et fondèrent des nations. Toutefois, ils gardaient toujours en mémoire leur héros, dont ils pleuraient la mort d'année en année et de génération en génération. Dans l'histoire du Japon, de la Chine, des Indes, de la Scandinavie, de l'Islande, on trouve des dieux dont le récit de la vie présente une grande similitude avec celle de Nimrod. Toutefois, le nom de ces divinités change selon les régions. Dans les anciennes traditions en Islande et en Scandinavie, si chaque humain pleurait la mort du dieu Balder, celui-ci reviendrait à la vie. En Égypte, on pleurait la mort d'Osiris, le dieu égyptien similaire à Nimrod. En Phénicie et en Assyrie, on pleurait Tammuz. En Grèce et à Rome, les femmes pleuraient Bacchus. Dans la vision qu'il montre à Ézéchiel, à l'intention de la maison d'Israël moderne, Dieu dépeint son peuple adorant le dieu soleil. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Le prophète dit encore, « Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées. » De l'hébreu, « charab », signifiant ravager, détruire par une action violente, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront dévastés et abandonnés, vos idoles seront brisées et disparaîtront, vos statues du soleil seront abattues. Ces statues du soleil devant lesquelles on prie, on allume des cierges, ont un disque solaire derrière la tête. Bien avant l'époque du Christ, on les trouvait déjà à Babylone, en Syrie et en Égypte. On retrouve aussi ce disque sur les représentations de l'enfant Jésus dans la crèche. Ézéchiel ajoute, « Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. » Certains pensent, bien à tort, que le passage que nous venons de lire se rapporte à l'ancien Israël. Ils affirment que ces événements furent accomplis par les Chaldéens, et ils se réfèrent aussi au livre de Baruch. Ce livre apocryphe n'est pas reconnu comme faisant partie des Écritures inspirées. La nouvelle encyclopédie catholique Théo le confirme, je cite, « Baruch, on met sous le nom de ce disciple et secrétaire de Jérémie, 5 chapitres sans grande unité, souvent placés dans les Bibles avec les Lamentations en annexe du livre de Jérémie. Il s'agit en réalité d'un écrit du IIe siècle avant Jésus-Christ qui nous est parvenu dans l'édition grecque de la Bible, les Septante. » Fin de citation. Ézéchiel a rédigé sa prophétie vers l'an 592 avant Jésus-Christ, alors que le peuple d'Israël avait déjà été emmené en captivité par Salmanazar, roi d'Assyrie. Cette déportation eut lieu vers l'an 721 avant l'ère chrétienne, comme le confirme l'encyclopédie catholique. Les Israélites ne revinrent pas chez eux. D'autres populations non israélites furent elles aussi déportées pour s'installer dans les villes de Samarie, comme l'indique le livre des Rois. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avva, de Hamath et de Sapharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Si les villes de Samarie avaient été détruites, ruinées comme l'annonça Ézéchiel, ces populations n'auraient pas pu s'y implanter. Ézéchiel, lui, se trouvait parmi les Juifs en captivité lorsque cette prophétie lui fut révélée. Cette captivité eut lieu plus de 130 ans après celle du peuple d'Israël. À ce moment, les Assyriens qui avaient emmené en captivité la maison d'Israël avaient déjà été battus par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et les tribus d'Israël avaient déjà quitté la Babylonie pour immigrer lentement vers nos régions. Ézéchiel n'a donc jamais pu livrer son message à la maison d'Israël. Ce message est donc destiné aux tribus d'Israël modernes. L'Éternel Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils désobéissaient en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne le crurent pas, tout comme aujourd'hui les gens ne veulent pas croire la parole de Dieu lorsqu'elle affirme que le péché est la transgression de la loi. L'homme préfère croire que la loi est abolie alors que Dieu a déclaré qu'elle était éternelle. Satan séduit toujours le monde, il use de tromperies. Voilà pourquoi les chrétiens modernes ne respectent pas les fêtes instituées par l'Éternel Dieu, mais en observent d'autres émanant du paganisme. Je poursuivrai ce sujet la semaine prochaine.